J'ai une question pour vous deux.
Benoît Dutrisac.
Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario?
Mario Dumont.
Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire.
Ben, c'est calme.
C'est décrapeux.
C'est calme, dire ça.
Ils ont tellement tout.
Non, ils ont déjà eu plus.
La rencontre Dutrisac-Dumont.
Fais un petit effort.
Je n'étonnerai personne en disant qu'il avait le Canada dans la peau. Mais sa conception du fédéralisme canadien était plurielle. Le caractère distinct du Québec était pour lui source d'unité. Et malgré le fait que ses 4 enfants et ses 16 petits-enfants vivent ailleurs, l'idée ne lui est jamais traversé l'esprit de quitter la province qu'il a vue naître.
C'était un des moments très, très forts de cette cérémonie vraiment grandiose des funérailles d'État de l'ex-premier ministre Brian Mulroney. Vous avez reconnu sa fille aînée, Caroline Mulroney. Benoît, Mario, bonjour à vous deux.
Hello.
Caroline Mulroney qui a fait référence vraiment au côté distinctif de la société québécoise dans son hommage funèbre.
Pour les plus jeunes, c'est le texte des accords du Lac Meech. C'est ce qui était au cœur. Voilà. De reconnaître le Québec comme société distincte et que ça devienne une clause d'interprétation de la Constitution canadienne. De dire oui à la Constitution canadienne, mais s'il est question de langue, s'il est question de culture, dans l'interprétation que les tribunaux doivent en faire pour une loi, je sais pas moi, comme la loi sur la langue, ben il faut tenir compte que le Québec est une société distincte. Mais le point, c'est qu'en entendant Caroline Mulroney, moi, ça m'a quasiment secoué, ému. En me disant, est-ce que... Moi, je suis entré en politique, là, c'était cette époque-là. Je suis entré en politique, les accords du Lac Meech étaient signés, mais en attente d'être adoptés. Mais on parlait de ça tout le temps. Là, je veux dire, Brian Mulroney parlait de ça dans ses discours, la reconnaissance du Québec comme société distincte. Sincèrement, je vous pose la question aujourd'hui. Est-il imaginable qu'un politicien canadien puisse, au quotidien, dans ses discours, mentionner une telle chose? J'essayais de voir dans quelle direction évolue le Canada. Puis souvent, je dis ça, ouais, le Canada qui se définit sans le Québec. Puis je l'entendais, Caroline Mulroney, puis je me disais, en 2024, là, en politique canadienne, mettons qu'elle a décidé de se présenter là, en politique canadienne, avec un concept comme ça, t'es faite à l'os. Il n'y a plus personne au Canada qui veut entendre parler d'une telle chose qui était pourtant dans toute l'histoire des deux peuples fondateurs, puis un des principes fondateurs du Canada. Mais tu sais, si t'es Québécois pis tu regardes l'évolution du Canada entre ces années-là puis aujourd'hui, tu te dis, ouais, notre place là-dedans, là, je sais plus c'est quoi.
Les temps ont changé, hein?
Ben, les temps ont changé parce que on leur a tellement cassé les couilles avec nos revendications puis nos demandes puis que le Canada veut même plus nous entendre. Mais tu sais, ce qui a changé en politique, on parlera pas de politique là, des funérailles puis on parlera pas de politique de Brian Mulroney, là, y a, avec lesquels certains, j'étais pas d'accord, puis Caroline Mulroney aussi, là, était dans le gouvernement de Doug Ford, ou je sais pas si elle l'est encore.
Oui, présidente du Conseil du Trésor et ministre de la Francophonie.
C'est ça. Aujourd'hui, on peut même pas parler d'hommes et femmes en politique. Tu sais, là, faut parler de personnes ayant un vagin, personne. Le monde a tellement changé en 30 ans. Tu sais, il n'y a plus aucune référence qui tient. Là. Moi, je regarde les journaux au quotidien, puis on se souvient, ma fille fait un exposé sur René Lévesque à l'école. C'est le monde a tellement changé. Tu sais, une chance qu'il y a eu des références comme ça, une chance qu'il y a eu des hommes et des femmes qui se sont tenus debout pour essayer d'intégrer tout le monde, pour vivre ensemble, vraiment vivre ensemble, mais... C'est une époque qui révolue, là. Là, chaque groupe a son lobby, chaque groupe a son porte-parole, puis chacun a ses revendications. Je suis pas sûr qu'on s'en va dans le bon sens.
Mario, Québec solidaire, qui vient vraiment à la défense des locataires, se positionne, a organisé au cours de la fin de semaine une assemblée. Quelle est la suite logique des choses, selon toi?
Ben, c'est un peu un coup de circuit, là, tu sais, ce que Québec solidaire fait quelques années, là, qui sont des défenseurs des droits des locataires, qui s'opposent à, tu sais, quand il vient le temps d'adopter des lois, ils sont toujours du côté des locataires. Mais là, ils ont comme, disons, depuis un an ou deux, marqué beaucoup de points politiques. La fin de semaine, ils ont fait une assemblée de locataires, sous prétexte d'une assemblée d'information, mais qui était aussi beaucoup une assemblée politique. Et je vais te dire, du point de vue politique, c'est un grand coup, là, tu sais, et puis, de se devenir le parti des locataires. C'est juste qu'en fin de semaine, je regardais ça, puis je me disais, tu sais, c'est comme... Tu sais, des fois, la politique, c'est bizarre parce que, admettons que Québec solidaire est élu, puis met en application toutes ses politiques pro-locataires. Quand même assez radical, là, pour plusieurs. On s'entend que...
Non, attends, là, Mario. D'abord, depuis tantôt, tu dis politique de locataire. On parle de politique des locataires aînés ici, là. C'est ça,
l'aspect Françoise David, là, mais ils ont fait plus que ça, là, dans la dernière année, là.
Je comprends, mais ça, c'est fondamental. Et là, je suis Québec solidaire, moi, ce matin. Parce que j'ai parlé à une porte-parole, Mme Lebel, de Mont-Carmel. Là. C'est un édifice que Henri Zavriev a acheté à 40 millions de dollars il y a 2 ans. Il a envoyé un huissier, un matamor. Lui, il achète des immeubles qui sont consacrés, des RPA, ou des immeubles où il y a des pauvres. Les gens se regroupent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se payer 1 200$ par mois. Puis là, il en a acheté un autre sur Sainte-Catherine. Puis il a sorti tout le monde. Là, il sort, puis il dit qu'il fait des rénovations, mais c'est des rénovictions. Et moi, là, du monde de même, je suis écœuré de voir ça à Montréal. Et s'il y a une crise du logement, c'est à cause des Henri Variev. On sait pas où il prend son argent. On sait pas où il prend ses millions de dollars pour acheter des immeubles. Et ce Mont-Carmel, là, ils sont une cinquantaine de personnes âgées qui ont résisté au matamor Zavriev. Et j'utilise matamor pour pas utiliser un autre mot où je pourrais me faire poursuivre. Et là, il fait quoi? Zavriev, il loue ces logements-là, ces appartements-là, à des migrants mexicains qui arrivent en gang, qui font du bruit, qui connaissent pas la façon de procéder au Québec et à Montréal. Les personnes âgées se sentent moins en sécurité, c'est sale, c'est mal entretenu, puis là, les loyers ont grimpé. Fait que je pense qu'il est temps qu'on protège les personnes âgées, et là, Québec solidaire dit, la loi, c'est 70 ans si t'habites 10 ans dans le logement. Ben moi, ils veulent mettre ça à 65 ans, à 5 ans si t'habites dans le logement, avec un revenu modeste. Je suis d'accord avec ça. Il est temps que les promoteurs, puis c'est pas Duranceau qui va les appuyer, là. Duranceau est allé à Mont-Carmel l'été passé. Bien, on est rendu au mois de mars, puis elle réfléchit encore quoi dire. Elle sait pas quoi dire. Bien, c'est sûr, elle en a fait de la spéculation, elle aussi. Bien mal placée de prendre la parole. Alors oui, il est temps qu'on protège les locataires aînés qui sont là depuis longtemps avec des revenus modestes, des spéculateurs... qualificatif que je vais retenir.
Mais Mario, c'est vrai que c'est un drame humain pour ces personnes aînées-là, là, qui vivent ça, puis qui sont évincées, puis c'est un stress incroyable.
Le cas des personnes aînées est un cas particulier. Ah ouais. D'ailleurs, la loi Françoise David, si je ne me trompe pas, là, elle a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Là, Québec solidaire, Benoît vient de l'expliquer très bien, ils veulent étendre, l'élargir, là, donc baisser l'âge à partir duquel sera applicable et baisser la période. Mon point est le suivant. C'est que si on mettait, ça c'en est une, mais si on mettait en application toutes les politiques de Québec solidaire, tout ce qu'ils ont proposé pendant l'étude du projet de loi cet automne sur le logement, ben la résultante, là, c'est qu'ils s'en construiraient plus de logements. Plus personne ne voudrait être propriétaire, plus personne ne voudrait. Personne ne se lancerait dans le locatif à construire des nouveaux logements. Or, en étant le grand défenseur du logement, et c'est parfois ça en politique, en étant les grands défenseurs du logement et des locataires, ils pourraient aussi devenir de grands amplificateurs de la crise du logement. Parce qu'à la base de la crise du logement, à la base de tout, là, c'est qu'il manque de logement. Là. Ce qui fait que les prix, il y a une pression si folle sur les prix. Ce qui fait c'est que les gens se battent pour les mêmes logements en sachant qu'au 1er juillet, il y a des gens qui n'en auront pas. C'est ça le gros problème. Alors, c'est le fun, là, tu sais, je veux dire, je comprends que pour Québec solidaire, qui veut être le parti des locataires, d'aller partout à télé, à radio, puis de gueuler contre les propriétaires, c'est bon, là, c'est le fun, politiquement.
Mais pourquoi être un ou l'autre? Moi, c'est ça, je comprends pas. Je pense qu'il y a des locataires qui ont besoin d'être protégés, comme ceux-là. Puis il y a des propriétaires qui ont besoin d'être protégés. Alors, mais on est toujours, tu sais, la CAQ avec Duranceau, ben, elle est pro-propriétaire. Là, elle veut. Puis là, Québec solidaire est pro-locataire. Il n'y a rien de blanc et noir dans la vie. Là.
C'est, Benoît, le projet de loi de ministre Duranceau, tu sais qu'il y a quand même plusieurs mesures pro-locataire. Là. Les évictions, les compensations financières pour les évictions, les évictions interdites, ça sort
d'un gars. Là, Zavriev, là, il en fait, il compense les gens. Mais il compense avec des pinottes. C'est ça le problème. C'est que même avec
des compensations... C'est ça que la loi vient encadrer. Je pense que c'est 6 mois qu'il faut... Je ne vais pas me tromper, je pense que c'est 6 mois qu'il faudrait donner.
Ouais, mais après, tu vas où?
Tu vas où?
Ah, oui, mais là, on est toujours dans le même problème, là.
C'est pas abordable.
6 mois. pour te loger. Tu sais, c'est pas 6 mois pour réparer un bras cassé. C'est pour te loger. Et il me semble que ça, c'est un besoin fondamental dans notre société qui devrait être protégé. Puis ceux qui investissent dans des immeubles et qui louent, je comprends qu'ils veulent protéger leur investissement. Je comprends qu'ils veulent protéger leurs biens. Je suis d'accord avec ça. Mais regardez ce que la presse annonce là, à l'instant, là. On construit une autre tour à condo sur le terminus Mansfield, parce que c'est proche du REM. Ils parlent pas du bruit que ça va faire, puis les plaintes des gens. Mais moi, je me souviens, j'allais travailler à Place Bonaventure en autobus, puis ils étaient en train de construire le terminus Mansfield. Mais comme 8-9 ans plus tard, là, ils démolissent, puis ils recommencent, puis ils vont faire une tour à condo, qui est déjà plein de tours à condo, puis Montréal va devenir comme Vancouver. Puis je sais pas si vous êtes allé à Vancouver. C'est lettre en sacramouille, là. C'est juste des tours, puis des tours, puis des tours. C'est cher. Oui, c'est cher, cher, tu dis. Puis il n'y a pas de famille qui va habiter là, là.
Il n'y a pas les moyens.
Il n'y a pas de plan de match, tu sais. Valérie Plante adore au gaz encore. Elle a été invitée à Mont-Carmel. Bon, elle s'est informée, mais elle ne fait rien. Elle n'intervient pas.
Montréal perd ses jeunes aussi, Benoît.
Comment?
Montréal perd ses jeunes aussi, Benoît.
Oui, aussi. Les jeunes, et là, c'était dans la presse vendredi, les jeunes, mais là, il faut lire la Gazette aujourd'hui, ça, c'est drôle. Parce que c'est de c'est de la faute des francophones qui n'apprécient pas le fait, tu sais, qu'il y a des Anglos. Puis évidemment, on est intolérant, puis on veut pas aller à Côte-des-Neiges ou Notre-Dame-de-Grâce pour être servi, parce que c'est pas assez en français. Alors évidemment, tu sais, ils donnent ça à leur façon. Mais l'Exode, Montréal perd des familles, des jeunes, au profit des régions. Puis la raison principale que j'ai lue dans la presse, c'est que le taux de chômage est bas partout. Alors les gens ont plus besoin de venir à Montréal trouver de la job. Mais ça, vous trouverez pas ça dans la Gazette. Le Montreal Gazette parle pas de ça, là. C'est toutes les politiques de la CAQ.
Les francophones.
Ben oui, tu sais. Puis là, les frais qui ont augmenté dans les universités anglophones, c'est toujours pareil, là. C'est toujours
Mais c'est passé quand même quelque chose à Montréal de majeur. Je donne deux exemples. Tu sais, autrefois, là, pour les jeunes, justement, là, c'était naturel, là, à 20 ans, 25 ans, de s'en venir à Montréal, là, tu sais, de toutes les régions, puis même les régions s'en plaignaient, là, puis les jeunes avaient le réflexe de venir à Montréal. Ben, même chose, les gens des banlieues. Tu sais, les gens, le fun d'habiter en banlieue, là, il y a 25 ans, là, c'est de dire, ben regarde, t'as une maison tranquille, tout ça, mais tu vas à Montréal quand tu veux, tu vas au hockey, tu vas au restaurant. Tu sais, l'idée de la banlieue, c'est que t'es proche de Montréal. Là, l'autre jour, nos collègues à LCN faisaient un vox pop en banlieue, là, puis les gens disaient, hey, nous autres, là, on essaye de pas aller à Montréal.
Le moins possible.
Jamais. Ah ouais. On essaye d'éviter. La madame, il y en a une qui disait, ah, moi, j'ai eu un rendez-vous médical, j'ai été obligé de rentrer sur l'île. Mais ça, c'est une inversion, là. C'est Montréal qui, par sa façon de se construire, de mettre des cônes oranges, de changer ses stationnements, a écœuré le monde, là. A écœuré, en une génération, t'es passé de, ah, nous autres, on aime ça aller dépenser à Montréal, encourager les restaurants, c'est le fun, on est en banlieue, on reste à Longueuil, on est à côté de Montréal. La star, c'est, ah, non. Si on peut aller sur un restaurant, ça arrive sud, au 10-30, tout pour éviter de traverser les ponts, de venir à Montréal. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, si c'est justement de Montréal Mario. Demain matin, je m'interrogerais là-dessus. Je me disais, ah, c'est pas bizarre. Puis personne, tu sais, mettons, t'as un magasin ou t'as un restaurant, puis les gens disent, ah, moi, ce restaurant-là, je veux pas mettre les pieds là. Si moi, je suis propriétaire du restaurant, je vais me poser la question, c'est-tu sale? La nourriture est-tu mauvaise? C'est-tu sale? Ouais. Mon personnel est pas gentil. Pourquoi est-ce que perd tout le monde? Tout le monde se vante sur le trottoir, ils veulent pas rentrer dans mon restaurant.
Mais Mario a tellement raison, là. Madame Dutrisac avait un souper d'amis samedi soir dans le coin de la place des spectacles. Elle me dit, j'ai pas eu besoin d'aller au complexe des jardins pour me stationner. Il y avait de la place devant le restaurant. Il n'y a plus personne qui va à Montréal un samedi soir. De la place pour stationner devant. Puis Mme Plante, super, elle a craqué ça jusqu'à 11h le soir, là. Les parcomètres, tout.
C'est pour encourager le commerce, elle l'a expliqué, Benoît.
C'est pour stimuler l'activité économique.
Ça a l'air que ça marche terrible.
Ça marche-tu?
Stimuler Écoute. L'activité économique des parcomètres. Mais c'est la seule affaire. Quoi,
là,
ils font
tu t'en vas à Montréal, tu dis, merde, où est-ce que je vais me stationner? Je vais aller dans un, tu sais, Indigo, là, ils les ont tous. Là, tu te rends compte qu'il y a de la place partout un samedi soir parce que, comme Mario vient de dire, on va au 10-30, on va sur la Rive-Nord, on va n'importe où sauf à Montréal.
Ben, tu sais, moi, les gars, j'incarnais, là, tu sais, les jeunes professionnels qui rêvent de venir habiter à Montréal, au centre-ville, vie de condo, on fait tout à pied, les petits restos. Je l'ai vécu un certain temps, mais laissez-moi vous dire qu'à un moment donné, j'ai pris mes clics, mes claques, puis j'ai dit, c'est fini, c'est pas ici que je vais investir, c'est pas vrai.
Alors, tu as construit ton manoir sur les montagnes dans les Laurentides avec vue sur le peuple.
Dans le bois, puis j'ai
dans le bois, ouais.
Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est révélateur du fait que.
Il n'y avait pas de mouche à Montréal.
Ah, ça, c'est vrai, par exemple. Ça a été, c'était un gros plus. Quoique,
non, mais il y a d'autres sacs, genres de mouches, par
il y a des gros rats, par exemple, près des sacs à vidange.
Des rats, mais il n'y a pas de mouche.
Entre les deux, je ne sais pas lequel des deux choisir. Benoît, Mario, merci à vous deux.
Salut.